Mes très chers amis, il nous faut maintenant préciser notre credo. Nous recevons tous les jours, des nouvelles du monde entier. Et aujourd'hui, nous avons parfois l'impression que notre monde est comme dans une impasse. Certains auteurs parlent même de l'apocalypse. Ces auteurs semblent croire, compte tenu des guerres et des persécutions contre les chrétiens dans de nombreux pays, surtout là où domine l'islam, et compte tenu des problèmes financiers mondiaux, des innombrables catastrophes qui bousculent le monde et de l'accélération effroyable des progrès technologiques que l'on ne maîtrise plus, ces auteurs semblent croire que nous vivons actuellement les 7 plaies annoncées par l'Apocalypse. De plus, ces auteurs s'inquiètent, avec juste raison, des puces que l'on commence à placer dans le corps de certains malfaiteurs, pourtant libérés, afin de mieux les contrôler, en attendant que tous les hommes soient marqués, afin, dit-on, de mieux gérer leurs problèmes quotidiens. Et nous, les chrétiens, nous ne comprenons plus rien. Nous sommes dans un noir total, et nous cherchons la vérité, mais la vraie, celle de Dieu. Seigneur, où est la vérité, la vôtre, Seigneur, votre vérité? Seigneur, nous nous tournons vers vous. Nous vous prions. Que devons-nous faire? Par moments, nous avons tous peur. Nous sommes tous malheureux. Tous les hommes sont malheureux parce qu'ils ont chassé Dieu des espaces humains, de la vie de tous les hommes. Seigneur, nous avons mal, très mal dans nos cœurs et dans nos intelligences. Nous vous cherchons, Seigneur. Et voici que nous retrouvons Jésus à Gethsémani. Gethsémani, nous ne savons pas ce qui a pu blesser si fort Jésus pour qu'il ait sué le sang. A-t-il, comme cela est possible, vécu une ultime tentation destinée à le faire fuir afin d'éviter sa passion et à laisser les hommes à toute leur misère? Ou bien Jésus a-t-il assisté aux actions sataniques qui multiplient les péchés, lesquels ruinent aujourd'hui la civilisation chrétienne, civilisation de l'amour? Jésus a-t-il ressenti dans sa chair la détresse des hommes sans Dieu? Jésus, nous avons du mal à comprendre ce qui s'est passé en vous à Gethsémani. Comme vos apôtres, nous avons du mal à comprendre les Écritures, y compris celles qui parlent de vous. Que voulez-vous nous dire? Nous sommes là, Jésus, avec vous, mais sans vraiment vous consoler, contrairement à tant de saints qui, eux, ont su le faire. Et nous restons là à nous plaindre au lieu de marcher avec vous sur votre chemin de croix. Jésus, nous cherchons votre vérité. Nous sommes là, muets, consternés. Oui, Jésus, nous voudrions vous consoler, mais nous ne savons pas faire, car votre plus grande consolation, en vérité la seule que vous attendez, ce serait que nous cessions de pécher afin de redevenir purs et sans péché, sans ces péchés qui ont blessé en profondeur tous les êtres humains. Jésus, vous êtes venu guérir toutes nos blessures. Vous avez, par votre passion, sauvé tous les hommes. Pourtant, tous les hommes continuent, et nous aussi, nous continuons à vous offenser, à offenser Dieu. Que devons-nous faire? Que devraient faire les hommes pour consoler Jésus à Gethsémani? Tout simplement changer de vie, quitter les nouvelles idoles et revenir à Dieu et à ses commandements d'amour, les commandements du bonheur qui ont été si oubliés. L'Écriture nous dit « Un seul Dieu tu adoreras ». Évidemment, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, sinon ce serait un beau champ de bataille, chaque Dieu voulant avoir la suprématie sur les autres. De plus, si un Dieu unique n'existait pas, qui nous aurait fabriqué? Qui aurait créé les hommes et tout ce dont ils ont besoin pour vivre? Et qui aurait créé les univers? Pensons à l'unicité de Dieu. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. En effet, le péché originel, péché contre Dieu, aurait été multiplié par le nombre des dieux. Et quel péché aurions-nous pu commettre contre eux? Incontestablement, le même que celui que nos premiers parents commirent contre Dieu, mais multiplié par le nombre des dieux se prétendant tous seuls créateurs. Quelle pagaille! Comment alors aurions-nous une chance de nous en sortir? Car nous, pauvres hommes, nous serions toujours des créatures, mais des créatures dont chaque dieu pourrait revendiquer la propriété. On en arrive à ce que les mythologies grecques, romaines, celtes, perses et beaucoup d'autres portaient en elles. Chacun de leurs dieux imaginés, dit-on par des poètes, voulait tout pour lui. Et les rivalités entre les dieux étaient telles que plus personne ne croyait en eux. Et pourtant, à ces dieux et aux hommes qui s'étaient déifiés, les empereurs romains notamment, il fallait constamment offrir des sacrifices, parfois même des sacrifices humains. Dès que l'on réfléchit, on revient vite à la vérité. Un seul Dieu tu adoreras, un seul Dieu nous devons aimer. Dans les textes anciens de la Bible, Dieu seul, Dieu unique se manifeste fortement. Utilisant les paroles et les événements que les Juifs pouvaient comprendre à l'époque de l'Exode, Dieu dit à son peuple, « Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Cela, les Hébreux qui venaient de traverser la mer Rouge pouvaient le comprendre, car ils avaient encore dans leur mémoire les souvenirs de leurs années d'esclavage en Égypte. Oui, ils pouvaient comprendre que Dieu leur dise « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Pour eux, les Hébreux, c'était très clair. Ils avaient encore devant les yeux les images innombrables de tous les faux dieux égyptiens qui ne parlaient pas, qui ne sentaient pas, qui étaient aussi morts que des pierres taillées. Car ces dieux n'étaient que des pierres taillées, des images faites de main d'homme. Ces pauvres Hébreux comprenaient les paroles de Dieu. « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. » Non, les Hébreux ne se prosterneront point devant elles, et ils ne les serviront point. Car les idoles ne peuvent rien, elles ne sont rien. Mais pourtant Dieu devait ajouter, « Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième et quatrième génération, pour ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Oui, Dieu peut punir l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. Cela est conforme à nos connaissances médicales. Nous savons tous que des tares ou des handicaps dus très souvent au péché de l'une ou de quelques personnes des générations antérieures peuvent se transmettre pendant plusieurs générations. Mais ces tares disparaissent peu à peu. Et voici que nous découvrons l'immense miséricorde de Dieu, immense puisqu'elle va jusqu'à 1000 générations pour ceux qui gardent les commandements. Ainsi, aimer Dieu et garder ses commandements, c'est découvrir l'incroyable miséricorde de notre Dieu créateur. Miséricorde qui pardonne, qui protège, qui guérit. Miséricorde amoureuse de Dieu pour son peuple et chacun de ses amis. Et le texte de l'Exode précise, « Le nom de Dieu, tu le respecteras infiniment. » C'est normal. Quand on aime, on respecte. Chacun peut penser « j'aime Dieu, donc je le respecte, et je ne prendrai pas Dieu à témoin de toutes mes actions, y compris les plus viles. » Non, certainement pas, car Dieu est infiniment au-dessus de moi. Chacune de ses pensées est des millions de fois supérieure aux miennes. Et surtout, les pensées de Dieu sont toujours vérité, tandis que les miennes sont toujours plus ou moins erronées en raison de ma petitesse. Tout ce que font les hommes est à leur échelle, et leurs dimensions sont infiniment minuscules comparées à l'infini qu'est Dieu. Les hommes ne peuvent pas voir Dieu puisqu'ils sont en lui. Dieu est vérité, et nos petites vérités ne sont que des petites expressions, souvent déformées à cause de notre vision déformante de la vérité vraie et infinie de Dieu. Alors, quand nous pensons, quand nous réfléchissons, quand nous cherchons la vérité, nous devons toujours nous dire que notre vérité n'est qu'une pâle image déformée de la vérité qu'est Dieu. Dieu est vérité, seule vérité, qui dans sa miséricorde nous donne son amour. Et Dieu dit à chaque homme, donc à chacun de nous, « Si tu m'aimes, observe mes commandements. Eux seuls sont la vérité que tu cherches. » Dieu seul est la vérité. Vérité qu'il exprime par ses commandements. Parfois Dieu s'exprime plus clairement et nous fait savoir, par l'intermédiaire de certains événements, ce qu'il désire des hommes. Dieu nous fait comprendre, par certains événements, ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Au contraire, il y a parfois des délais, des empêchements inattendus, suscités brusquement par Dieu, qui veut nous dire ce qu'il ne souhaite pas que nous fassions, car nos désirs pourraient nous faire du mal. Quelle est grande la miséricorde de Dieu !